Voici une question dont la réponse va aider tous ceux qui veulent plaire à Dieu. Pouvons-nous vaincre les désirs de la chair par nos propres efforts? La parole de Dieu va nous donner la solution dont nous avons tant besoin aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Le Seigneur va de nouveau répondre à toutes nos questions au cours de notre émission d'aujourd'hui. Dieu est fidèle et il prend plaisir à nous faire connaître sa parole pour qu'on soit des gens heureux si toutefois on la met en pratique. Voici nos questions. Est-ce que Dieu veut que ceux qui commettent des méfaits soient punis? Veut-il que nous donnions des salaires à nos pasteurs? Est-ce que Dieu veille sur les familles? Veille-t-il sur les veuves? Comment pouvons-nous vaincre la chair? Est-ce que Dieu s'attend à ce que nous lui exprimions notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous accorde? Est-ce que les péchés des croyants peuvent entraîner des conséquences douloureuses? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à tout ce bon enseignement. Prions. Ô Seigneur, oui, aide-nous à oublier les tracas de la vie, les soucis, toutes sortes de pensées qui pourraient nous empêcher d'entendre ton message. Dispose nos cœurs à tout ce bon enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu n'approuve pas les pratiques ascétiques, c'est-à-dire de maltraiter durement notre corps et d'essayer de l'assujettir aux lois de la religion. La Bible dit plutôt de prendre soin de notre corps, car il est la demeure de l'Esprit de Dieu. De plus, Dieu se soucie du quotidien de son peuple. Il a donné des lois au sujet de la propreté et de l'hygiène. Notre amour du prochain doit se refléter dans nos transactions commerciales, et nous ne pouvons pas prêter à un taux d'intérêt usurier. De plus, à cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu a permis le divorce en cas d'adultère. De plus, il a prévu que les pauvres pouvaient glaner les champs après la récolte. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 25 dans lequel nous voyons que Dieu protège les innocents en faisant punir les coupables et il donne une loi afin qu'un homme suscite une postérité à son frère en cas de décès. Certains crimes étaient commis à la suite de mésententes et de querelles entre deux hommes. Ces délits ou ces méfaits n'étaient pas suffisamment graves pour mériter la peine de mort. Cependant, Dieu a demandé qu'il soit puni. Lisons à partir du premier verset, Deutéronome, chapitre 25, versets 1 à 3. « Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent, et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. » Oui, chers amis, les méfaits doivent entraîner des conséquences. Dieu ne permettait pas plus de 40 coups, sinon le coupable aurait pu mourir. Le nombre de coups dépendait de la gravité du délit. Cependant, ce type de punition n'est plus employé de nos jours. Par contre, nous devons retenir le principe des conséquences. Lorsque ceux qui font des méfaits doivent en porter les conséquences, le taux de crime diminue dans une société. Ce qui ne va pas dans notre société contemporaine, c'est que ceux qui font différents délits s'en tirent souvent sans aucune conséquence. Les sursis de peine et les peines dans la société ne sont pas toujours perçus comme des punitions, surtout dans les cas de délinquance juvénile. Verset 4. « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. » Dieu protège le bœuf. Lorsque le bœuf foulait le grain, il travaillait pour son propriétaire, donc il était bon de le laisser manger. Dieu se soucie même des animaux que nous possédons. L'ouvrier mérite son salaire. C'est la leçon à retirer de ce texte. L'apôtre Paul a même cité ce verset dans son épître aux Corinthiens. Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 à 11. Voyez quelle application l'apôtre Paul fait de ce verset. Autrement dit, en résumé, donnez un salaire à votre pasteur. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. L'homme qui vous prêche la parole vous donne une nourriture spirituelle. Vous devez donc lui donner un salaire en retour. C'est l'application que Paul fait de ce verset. Maintenant, nous passons à un autre sujet intéressant. Dieu a donné une loi afin de protéger les veuves. Cette loi est efficace et Ruth l'a utilisée. Nous verrons l'histoire de Ruth lorsque nous serons rendus à son livre. Pour l'instant, poursuivons notre lecture, versets 5 et 6. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Dieu veille sur les veuves et les familles. Dieu avait prêté une attention particulière aux femmes afin de les protéger. Nous parlons beaucoup des droits de la femme, et il est intéressant de noter que Dieu leur en a accordé. Le pays était partagé entre le peuple, et la grande majorité des hommes possédaient une terre et en vivaient. Non seulement un agriculteur pouvait-il avoir des céréales d'entreposer, mais avait aussi des animaux. Sa veuve se retrouvait avec la propriété. Si cette femme avait épousé un étranger ou un Israélite d'une autre tribu, celui-ci serait devenu propriétaire de la terre. La loi interdisait cela. L'héritage d'un homme devait demeurer dans sa tribu. La veuve pouvait aller vers son frère, un cousin ou un parent proche de son mari, défunt, et lui demander de l'épouser pour relever le nom de son mari en Israël. Le premier-né du second mariage héritait de la propriété du défunt. La loi définissait l'ordre dans lequel les parents avaient le droit de rachat. Dans le livre de Ruth, nous voyons la jeune femme demander à Boaz de l'épouser. Celui-ci avait un droit de rachat. Verset 7. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Si un homme refusait d'épouser sa belle-sœur, elle pouvait s'adresser aux tribunaux et aux autorités de la ville. Versets 8 à 10. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée, en Israël, la maison du déchaussé. » Une femme pouvait aller vers les anciens et plaider sa cause. Si l'homme persistait dans son refus d'épouser sa belle-sœur, il se voyait imposer une pénalité. Il était disgracié publiquement. Cela exposait publiquement son refus de relever le nom de son frère. Le fait qu'il laissait tomber sa famille, sa tribu, sa nation et Dieu. Le refus de l'homme était considéré un geste honteux. Nous voyons ici un bel exemple de protection accordée aux veuves par Dieu. Nous verrons cette loi être utilisée par Ruth dans le livre qui porte son nom. cette loi pouvait avoir un effet bénéfique sur les familles. La famille d'un jeune homme devait s'assurer que celui-ci choisisse bien son épouse. En effet, l'un d'eux pouvait devoir la marier un jour si leur frère mourait. Un mariage était une affaire de famille, et c'était une façon que Dieu a établie pour rapprocher les familles, protéger les veuves et conserver les propriétés dans une même famille. Amalek attaqua les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et nous avons vu le récit de ce combat dans Exode, chapitre 17. Amalek était un peuple nomade et maraudeur qui vivait dans le désert. Versets 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. C'est en se soumettant à l'Esprit de Dieu que nous vainquons la chair. Israël avait été attaqué par Amalek sans aucune provocation. C'est le combat au cours duquel Moïse se tenait sur une montagne alors que Aaron et Hur lui tenaient les bras en prière à Dieu. Lorsque Moïse avait les bras élevés, c'est Israël qui avait le dessus sur Amalek. Josué a dirigé les guerriers pendant le combat. Israël l'a remporté sur Amalek. Maintenant Dieu ordonne une chose intéressante. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Nous avons déjà dit qu'Amalek représentait la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Dieu veut éliminer complètement notre vieille nature un jour. Nous ne pourrions pas entrer au ciel avec celle-ci. Vous et moi avons une vieille nature qui ne se soumettra jamais à Dieu. Nous approfondirons ce sujet lorsque nous étudierons l'Épître aux Romains. Amalek est une image de la chair. Tant que nous serons dans notre corps mortel, nous ne pourrons pas nous défaire de notre chair. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Exode, chapitre 17, verset 16. Nous avons vu au chapitre 23 que nous n'avons pas à haïr notre chair. Nous ne la vaincrons jamais au moyen de pratiques ascétiques, en l'écrasant ou en devenant super pieux. Tout cela mène à rien. Mais nous devons reconnaître que nous sommes constamment en guerre contre notre chair. C'est un combat entre l'esprit et la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates, chapitre 5, verset 17. Nous ne pouvons pas vaincre la chair par nos efforts, mais en nous soumettant au Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut produire des fruits spirituels en nous. Le Seigneur a dit qu'il effacerait la mémoire d'Amalek de sous les cieux. Je loue Dieu de ce qu'il compte anéantir notre chair un jour. Nous passons maintenant au chapitre 26, qui décrit une belle cérémonie concernant les prémices des récoltes. C'est une expression de gratitude envers Dieu qui a accordé les récoltes. Dieu est loué pour sa bonté par cette offrande. Débutons notre lecture de Deutéronome, chapitre 26, versets 1 à 4. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Chers amis, exprimez-vous votre reconnaissance et votre gratitude envers Dieu? alors qu'il présentait son offrande, composée des prémices de sa récolte, il devait passer en revue les bienfaits de Dieu pour son peuple, qu'il a libéré d'Égypte, pour le conduire dans ce pays d'abondance où coule le lait et le miel. Verset 5. Tu prendras encore la parole, et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Se rappeler des bienfaits de Dieu. Quel encouragement! J'aimerais que vous preniez note d'un détail. L'homme commence par une confession. Mon père était un Araméen nomade. Abraham et Isaac n'étaient certainement pas des Israélites. Techniquement, Jacob n'était pas un Israélite non plus. Le groupe qui est descendu en Égypte était araméen. Abraham n'était pas plus israélite qu'il était ismaélite. Puisque les deux peuples sont ses descendants, Abraham était de nationalité araméenne. Versets 6 à 10. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. C'était une occasion pour un Israélite de louer et d'adorer Dieu dans un esprit de reconnaissance. Nous apportons des sacrifices de louange et de gratitude à Dieu à l'occasion de l'action de grâce, ainsi, je l'espère, à de nombreuses autres occasions. C'est la chose à faire. Nos amis américains se réunissent en famille et célèbrent à toutes les années l'action de grâce. Au Canada, nous apportons généralement des offrandes pour une œuvre ou un besoin identifié par notre assemblée. C'est bien. Lorsque notre gratitude n'est pas exprimée seulement en paroles, mais en action aussi. Versets 11 à 15. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. » Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. » Les Israélites terminaient leur offrande d'action de grâce en proclamant leur obéissance à Dieu. Versets 16 à 19. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Dieu exige l'obéissance des siens. Dieu veut toujours un peuple saint, un peuple mis à part pour lui. Il ne nous a pas sauvés afin que nous demeurions dans le péché, mais dans le but de nous sanctifier et de nous amener au ciel, dans sa demeure. Nous sommes ses témoins et ses ambassadeurs. Si nous déshonorons Dieu par notre conduite, celui-ci ne nous condamnera pas à l'enfer, puisque son Fils, Jésus, a porté nos péchés à la croix. Mais il nous châtiera pour notre bien et parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur que nous pouvons vivre dans le péché. Si nous choisissons cette voie, soyons prêts à en prendre les conséquences douloureuses. Le Seigneur nous invite à souffrir avec lui, à souffrir pour sa cause, pour la cause de l'Évangile de la Bonne Nouvelle et pour son nom. Il nous invite à aller le rejoindre, à porter l'opprobre de son nom. Êtes-vous prêt à le suivre? Le chemin n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin qui conduit au bonheur, à la joie, à la vie éternelle. Tu as le choix de souffrir sans Christ ou de souffrir avec Christ. Ne plus jamais être seul. Il est prêt à partager nos peines, nos douleurs, nos soucis. Il est prêt à te libérer de ton fardeau. Écoute cette belle invitation du Maître, le Maître qui est doux et humble de cœur que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez-vous toute la portée de cette invitation pour votre âme, pour l'être que vous êtes? Ça en vaut vraiment la peine. C'est payant d'obéir à l'Évangile lorsque nous comprenons et saisissons cette vérité d'aller vers Jésus et de faire ce qu'il nous demande. Ici, nous sommes invités à nous décharger sur lui. Pourquoi de continuer à porter toi-même ton fardeau, alors que Jésus t'invite à le partager avec lui, afin qu'il puisse t'en libérer, et par le feu même recevoir en retour, si tu es attentif à ses instructions, à ses commandements, à son enseignement, de trouver la paix et le repos pour ton âme. Va vers celui qui t'invite à l'instant même. Reçois ses instructions. Laisse à ses pieds ton fardeau et accueille-le comme Sauveur et Seigneur personnel. Tu as peut-être besoin d'aide à savoir comment t'adresser à ce grand Dieu. Tu peux t'identifier avec ces quelques paroles et lui dire ainsi, « Dieu, je viens vers toi. Je réalise l'état de mon être, l'état de mon âme. Elle a besoin de ce repos. Je t'offre ce fardeau, mon péché, afin que tu puisses m'en délivrer. Tu as le pouvoir de pardonner. Je le reconnais aujourd'hui. Viens dans ma vie, accomplis parfaitement ton œuvre de délivrance. Sauve-moi. » Prochaine émission, Deutéronome, chapitre 27 et chapitre 28.
Merci, Régent. On a appris aujourd'hui que lorsqu'un croyant déshonore Dieu par sa conduite, il doit en subir les conséquences. Dieu le châtie pour son bien et pour que le beau nom de Dieu ne soit pas déshonoré. Mon ami, si tu as reçu le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, c'est certain que tu ne perdras pas ton salut. C'est la promesse de Dieu. Mais il devra te châtier pour te ramener à vivre comme un véritable enfant de Dieu, comme un ambassadeur pour son royaume, si tu te détournes de lui. Je me souviens d'avoir annoncé la bonne nouvelle du salut par grâce à une personne qui était très touchée. Ça se voyait par ses remarques, ça se voyait dans ses yeux. C'était un homme dans la vingtaine. Après avoir longuement discuté avec lui, après avoir bien détaillé le plan de Dieu pour qu'il soit sauvé, pour qu'il reçoive le pardon de ses péchés, il a accepté de venir avec moi à un déjeuner de l'espoir qui avait lieu dans notre région. Il est venu avec sa petite amie, et ils ont tous les deux aimé entendre le témoignage d'une personne qui était née de nouveau. Quand j'ai revu cet homme une semaine ou deux plus tard, il s'est mis soudain à me dire qu'il avait déjà entendu le plan de Dieu pour son salut par un couple qui était ami avec sa famille, quelques années auparavant. Et justement, j'avais déjà connu ce couple pendant mes premières années à l'Évangile. Malheureusement, ces gens ne vivaient pas conformément aux Saintes Écritures. Ils faisaient des choses illégales et bien d'autres choses qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui a Dieu pour Père, qui a Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui a reçu l'Esprit Saint. Alors le jeune homme m'a dit, « Si c'est ça d'être chrétien, je ne veux pas le devenir. » J'ai tout fait pour l'aider à comprendre qu'il y a parfois des gens parmi nous qui ne sont pas des nôtres, ou certains chrétiens qui s'égarent pour un certain temps. Mais les dommages avaient été faits. Il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Il ne restait que la prière. Ceci est arrivé il y a plusieurs années et je prie encore pour ce jeune homme. Mais mon cœur est réellement triste quand je pense aux témoignages de ces gens qui ont détourné ce jeune homme de la vérité. Mon frère, ma sœur, est-ce que ton témoignage dans le monde est celui d'un ambassadeur de ta patrie? Notre patrie, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. C'est l'endroit où Jésus est en train de nous préparer une place. On va vivre avec lui éternellement. Il faut que ça paraisse maintenant. Il faut que ça paraisse dans ma vie. Il faut que ça paraisse dans ta vie. Que les gens qui nous voient vivre puissent dire « Moi, j'aimerais vivre comme ça. J'aimerais être un enfant de Dieu, moi aussi. J'aimerais être tout amour. J'aimerais avoir un témoignage parfait. » Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, efforçons-nous. Prions les uns pour les autres et efforçons-nous de marcher d'une manière digne de Dieu pendant le court temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Que les gens puissent désirer cette même vie que nous avons, cette vie éternelle. Comme Dieu nous aime, il a donné son Fils unique pour nous donner cette belle vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.